Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Aujourd'hui, je vous propose une formule un petit peu différente puisque nous sommes plusieurs autour de cette table et je vais d'abord laisser mes invités se présenter. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marco.
Raphaël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans, je suis journaliste et je reviens d'une année d'humanitaire au Cambodge. Sinon, j'ai eu la chance de pas mal voyager dès toute petite puisque j'ai habité avec mon père en Asie quand j'avais 4 ans. Et après, j'ai des parents qui m'ont beaucoup, beaucoup fait voyager. Donc, j'ai commencé à partir sac à dos toute seule dès mes 17 ans. Dès que j'avais 5 centimes de côté, je partais et j'ai toujours continué à faire ça. Voilà.
5 centimes, t'allais où? T'allais la station de métro d'à côté?
Eh bien, avec Couchsurfing et le stop, on peut faire des miracles.
Tu nous raconteras ça dans un autre épisode éventuellement. Après Raphaël, on a Jonathan. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter un petit peu?
Oui, donc je m'appelle Jonathan, j'ai 38 ans et moi j'ai toujours voyagé parce que je pense que le voyage fait vraiment partie de moi. Alors j'ai eu la chance effectivement de voyager avec mes parents et puis après avoir chopé le virus, pareil à l'âge de 18 ans, je suis parti, j'ai commencé à partir tout seul. Mon premier grand voyage, ça a été le Tibet. Et puis à partir de là, dès que je peux, je pars.
T'as chopé le virus toi aussi?
Exactement.
Et enfin, on a Antonin autour de cette table. Bonjour Antonin.
Salut, moi c'est Antonin, j'ai 33 ans, je suis ergonomie HM à la poste. Voilà, et puis moi je voyage dès que j'en ai l'occasion.
Ok, et tu vas nous raconter une histoire de galère à Cuba, c'est ça?
C'est ça.
On va y arriver dans pas très longtemps. Si vous suivez le podcast depuis un petit moment, vous vous rendez compte que cette formule est un petit peu différente. Vous avez pu entendre des récits de voyage, des récits de rencontres, des exploits, des émerveillements. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, on va parler galère. Aujourd'hui, on va parler d'histoire où on se dit « Putain, qu'est-ce que je fous là? J'aurais pu être chez moi dans mon canapé à regarder Netflix. » Nous allons parler de galère de voyage. Chaque invité autour de cette table, et moi y compris, va partager une anecdote de voyage. Quelque chose qui, sur le coup, était un petit peu galère, mais qui se raconte maintenant avec le sourire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter le sponsor de cet épisode, AVA. C'est une compagnie d'assurance voyage avec 40 ans d'expertise qui propose une large gamme de contrats adaptés à tout type de voyage et pour tous les budgets. Car même si le voyage c'est avant tout le lâcher prise et une bonne dose de kiff, une galère est vite arrivée, donc mieux vaut être assuré. AVA, c'est aussi Go by AVA, un blog dédié au voyage et une communauté pour s'inspirer pour vos prochaines aventures. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur Instagram. Et puisqu'on est sympa, si vous souscrivez au contrat Plan Santé Aventure, vous bénéficiez de 5% de réduction avec le code BOURLINGUER. Retrouvez plus d'infos dans la description du podcast. Bon alors maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à mes invités. Raph, est-ce que tu es prête?
Oui.
Tu vas nous parler de quoi?
Le Laos. Donc il y a un an, je suis partie un mois au Laos en pleine saison des pluies. C'était pas du tout la saison idéale pour partir en solo en plus, mais j'étais censée aller vivre là-bas, donc mon billet d'avion était déjà prêt, enfin déjà payé. Donc je me suis dit allez, on y va. Donc je suis arrivée à Paxé, une petite ville pourrie dans le sud du pays où j'étais censée vivre à la base. Et pour situer le contexte, il y avait plusieurs centaines de personnes qui venaient de mourir dans les inondations parce que les barrages avaient pété. Donc c'était pas de la petite pluie, c'était vraiment torrentiel. Donc j'ai passé mon voyage à aller de plus en plus vers le nord pour échapper à la pluie, en vain. Et plus je montais, moins c'était touristique. Et à un moment, j'étais censée partir pour aller visiter les grottes du Pathet Laos où le gouvernement communiste est réfugié pendant la guerre civile. Et je prends mon bus, donc déjà j'arrive dans de pas très bonnes conditions parce que j'étais déjà trempée, j'avais passé la journée en excursion dehors, j'avais pas eu le temps de me sécher, j'avais pas de batterie sur mon téléphone. Mais je me dis c'est pas grave, c'est juste 6 heures de bus, je vais dormir et voilà. Kenenny, au bout d'une heure, on se retrouve coincé. Le chauffeur sort, il fait je sais pas trop quoi dans le noir. Moi je comprends pas ce qui se passe, mais bon, j'ai l'habitude, bon, c'est l'Asie, tout est très lent, donc je pose pas de questions. Puis au bout d'une heure quand même, je demande en anglais « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Là, tout le monde se retourne, me regarde comme si j'étais un alien et explose de rire. J'étais la seule étrangère dans le bus et personne parlait anglais, donc ils trouvaient ça très très drôle que je demande « What's going on ?» Et je me dis « Ok, ça va être long. » Et effectivement, on a passé la nuit coincée là-bas et je savais pas ce qui se passait. Et au premier lieu de l'aube, on est reparti et en fait, j'ai réalisé que toutes les routes étaient pétées en deux à cause des inondations. Donc soit littéralement ouverte en deux, soit un arbre qui s'était abattu et impossible de redémarrer. Donc on reroule une heure, puis on se réarrête pendant 4 heures, et là tout le monde sort, tout le monde y va limite à la petite cuillère pour creuser, les gens essayent de pousser les troncs d'arbres et tout, enfin tout le monde est mis à contribution. Donc première journée assez laborieuse comme ça, et puis ouais, j'avais pas de batterie sur mon téléphone, j'avais juste un bouquin, mais bon, en plus il me passionnait pas trop, je parlais pas trois mots de là-haut, j'étais la seule touriste, dès que je leur essayais de leur parler en anglais, ils se pissaient dessus de rire, donc bon, c'était un peu relou. Et en fait, au bout du premier soir, je trouve quelqu'un qui parle un peu anglais dans les villages et qui m'explique qu'en fait, avant d'atteindre le bled où on était censé aller, il va sans doute y avoir 3-4 jours comme ça. Donc là, je me tape une petite crise d'angoisse des familles, parce qu'en plus, oui, j'avais pas mangé depuis 24 heures, j'avais pas dormi, parce qu'on était 14 dans le minivan. Et bon, bah, en Asie, il n'y a pas trop la culture des écouteurs. Hein. C'est vas-y que je regarde mon clip sur YouTube à fond les ballons en plein dans ta tête, et si t'as envie de dormir, c'est pas grave. Donc moi je commence à faire une crise d'angoisse, je commence à vomir parce que j'avais mangé que des pousses de bambou depuis 24 heures et mon estomac supportait pas trop ça. Donc il y a le chauffeur du bus qui me fait un petit massage pour essayer de me calmer, mais bon, en vain. Et finalement j'ai passé 3 jours et 3 nuits comme ça, sans électricité, à écrire dans mon journal, à pourchasser les petits cochons sur le bord de la route, à essayer d'apprendre à compter avec les enfants là-haut. Et au bout de 3 jours j'ai trouvé une petite rivière boueuse où j'ai essayé de me laver. Là tout le monde a sorti son téléphone pour me filmer parce qu'ils avaient jamais vu une blanche à poil. Voilà. Et 3 jours sans dormir, et tout le monde était là, sleep sister, sleep, c'est le seul truc qui savait dire en anglais. J'étais là, mais je peux pas dormir parce qu'en fait vous crachez, vous hurlez, vous regardez vos clips vidéo, et moi je peux pas dormir comme ça. Et puis finalement, au bout de 3 jours et 3 nuits, je suis arrivée dans mon petit bled Samnoua, où j'ai même pas pu aller visiter mes caves parce que toutes les routes alentour étaient pétées. Et j'ai passé 8 jours coincée dans le bled à devenir super copine avec mon voisin de guest house, qui était un ancien yakuza japonais, qui a passé la semaine à me montrer ses cicatrices de comment il s'écrasait ses mégots de cigarettes sur le corps pour tester sa patience. Et tous les matins, on allait à la bus station. Quand est-ce qu'on peut partir? Don't know, don't know, don't know, tout est cassé. Et finalement, on a fini par comprendre qu'il y avait un petit aérodrome au fin fond de la Pampa. Donc ça, pareil, il m'a fallu une journée entière pour le trouver parce qu'il n'est pas sur Google Maps, à faire l'avion pour mimer, pour demander au là-haut, donc il ne comprenait pas, je pense qu'il pensait que je faisais l'oiseau, donc il me regardait genre non. Et finalement, au bout d'une journée de galère entière, j'ai fini par trouver mon aérodrome. Il était 15h45, ils m'ont dit « Ah bah non, on ferme à 16h, revenez demain ». Le lendemain, je suis revenue, ils m'ont dit « Bon bah alors vous avez un vol pour Vientiane dans 4 jours ». Donc du coup, j'ai payé une blinde, j'ai dû changer tout mon billet de retour. Et après, donc 4 jours de plus à boire des bières et des bières et des bières avec mon nouvel ami Yakuza, nous avons pu décoller dans un petit avion de 8 places, donc un avion de Barbie qui vraiment, dès que je suis montée dedans, le truc il a tremblé, super rassurant, pour rentrer à Vientiane où nous avons eu de nouvelles aventures, mais ça c'est une autre histoire, voilà.
Rappelle-moi de ne jamais partir en voyage avec toi. Merci beaucoup Raphaël. Est-ce que quelqu'un a des réactions ou des questions?
Oui, moi j'aurais bien aimé savoir si on peut avoir le lien YouTube de la vidéo où tu te laves.
J'espère qu'elle n'a pas fini sur YouTube.
Bah, je me dis que je suis tellement impatient et de nature stressée que ça aurait été une horreur pour moi d'être à ta place.
Bah, c'était surtout très ennuyeux, ouais, parce que j'écrivais dans mon journal et je lisais mon bouquin, mais à 18h il faisait nuit et c'était fini, et j'avais pas de lampe torche, et j'essayais de faire un petit reportage photo, mais il pleuvait tellement qu'en fait mon réflexe m'a lâché au bout d'une journée. Donc voilà.
Ok, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
Mais de rien.
Jonathan, quand tu veux.
Oui, alors moi, ma galère de voyage, elle a eu lieu en juillet 2016, lors d'un road trip en Islande. Et donc voilà, donc j'étais au volant de mon véhicule au cœur du pays, et je circulais sur ce qu'on appelle les F-roads. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les F-roads là-bas sont des routes qui sont pas goudronnées, ça ressemble plus à des chemins, et elles sont très caillouteuses, il y a souvent des gués, donc sont des rivières à passer en voiture, et les conditions de circulation sont quand même difficiles. Donc évidemment, on fait pas ça en Clio, et un 4x4 est obligatoire. Alors moi, j'avais pas une machine de guerre, j'avais un Duster, mais ça allait très bien. Et donc, je suis à la fin de ce périple, et j'arrive donc sur ces fameuses routes, et j'arrive à une intersection où, sur la gauche, je peux rejoindre une route goudronnée jusqu'à ma prochaine étape, ou bien je fais une petite extension supplémentaire en tournant à droite et en continuant sur ce type de route. Bon, évidemment, vu la thématique de ton émission, bah, tu te doutes que j'ai pris à droite. Et donc, je m'engage pour les 35 derniers kilomètres sur ce type de route. Et dans un premier temps, je finis par apercevoir quelques fermes. Alors, chose que je venais de... En fait, j'étais surpris de voir des habitants parce que, mis à part des volcans autour de moi, il y avait rien d'autre, quoi, sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et donc voilà, je m'engage sur cette route, j'arrive sur l'un des premiers guets à passer, et là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est-à-dire que la rivière est particulièrement large, le courant est puissant. Je me dis, bon, ils sont différents, enfin, ce guet-là est quand même vraiment différent des autres. Malgré tout, je me lance avec la voiture, et arrivé au milieu de la rivière, je sens qu'en fait les roues avant n'accrochent plus. Et je perds le contrôle de la voiture avec la force du courant. Je sens la voiture qui vraiment se dévie, quoi. Donc, grâce à l'inertie, j'arrive malgré tout à franchir l'autre côté de la rive, à reprendre le contrôle de la voiture. Et voilà, à traverser avec plus de peur que de mal. Et puis ben là, je me sens pas de faire demi-tour. Donc, je décide de continuer sur les derniers dizaines de kilomètres sur ce type de route. Mais bon, c'était juste chaotique, quoi, parce qu'il y avait des ornières qui avaient été faites certainement avec des tracteurs. Donc, si je mettais la roue dedans, la voiture restait bloquée. On était au mois de juillet, il y avait un paquet de neige pas possible sur la route. Donc, j'étais presque coincé. Il y a même un moment où, en fait, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de roue. C'est-à-dire que tu roules et tout d'un coup, il y a un trou d'au moins 1m50 sur 3 mètres de large. Et, enfin, ce n'est pas une voiture kangourou que j'ai, quoi, tu vois. Donc, il a fallu faire des détours, enfin, vraiment chaotique. Et puis, j'arrive, donc quand même avec pas mal de stress, sur le deuxième et dernier guet que je devais passer avant de rejoindre une route goudronnée. Et là, je suis rassuré parce que je me dis, bon, j'analyse vite fait la situation, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, très peu de courant. Ok, c'est large, mais ça va le faire. Donc je m'engage, et arrivé au quart à peu près du guet à traverser de la rivière, là j'ai ma roue arrière du véhicule qui s'enfonce, qui patine dans la boue, et en fait je reste bloqué. Donc je sors de la voiture, j'essaye de caler des pierres ou quelque chose pour pouvoir donner de l'impulsion. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'arbres en Islande, donc là-dessus, je n'ai pas embêté, enfin... En fait, il n'y a rien. J'ai pas de signal non plus sur mon... pas de réseau sur mon téléphone. Je voyageais avec mon ami et je lui dis, bah écoute, de toute manière, tu vas rester dans la voiture et puis il ne devrait pas y avoir de danger. De toute façon, il n'y a personne. Et puis, il n'y a pas de nuit non plus en Islande. Donc, je vais retourner à pied au niveau de l'intersection et au niveau des fermes pour essayer de trouver de l'aide ou au moins capter un réseau. Donc, me voilà parti... avec mon sac étanche et puis voilà, un peu de nourriture, bref, pour refaire les à peu près 20 km que je venais de faire en voiture. Et pendant tout le trajet de marche, je me dis, mais le premier guet que j'ai passé en voiture où j'ai presque perdu le contrôle, il va falloir que je le passe à pied cette fois-ci. Donc j'essayais en marchant de trouver une stratégie ou voir si je pouvais pas essayer de contourner. Bref. Après plusieurs heures, je finis par arriver en face de ce guet, et donc là, en fait, il n'y a pas eu le choix, donc je décide de le traverser à pied. Alors, je garde mes chaussures pour ne pas me faire entailler non plus les pieds par les pierres. J'essaye de gonfler mon sac d'air de manière à, si je me fais emporter par le courant, au moins ça me servira de bouée. Enfin bref, je me lance, je traverse la rivière à pied. Ça se passe au final pas trop mal. Alors oui, certes, hein, l'eau est froide, mais elle descend des glaciers, donc faut pas non plus... Voilà, et je traverse la rivière, je continue à marcher encore 1 km et j'arrive sur la première ferme. Et là, avant même de frapper à la porte, je m'aperçois que de toute manière, il n'y a personne, tout est fermé. Par contre, à l'extérieur, je vois un pick-up. Et côté passager, à travers la vitre, je vois qu'il y a les clés sur le pick-up. Et là, ça fait ni une ni deux dans ma tête, je me dis « bon, je vais le voler ». Enfin... l'emprunter sur une courte période de manière à regagner mon véhicule et m'en servir pour pousser ma voiture et voilà, et me dégager, quoi. Et donc j'ouvre la portière côté conducteur, mais en fait je m'aperçois que en fait la roue avant est complètement crevée. Donc là je suis écœuré, je continue à marcher encore et j'en peux plus, et j'arrive à cette fameuse intersection où en fait j'aurais peut-être dû prendre à gauche. Et donc là, il y a la dernière ferme, et je vois qu'il y a un petit chien. Donc je me dis, bon, s'il y a un chien, il y a forcément de la vie. Donc je me rapproche à côté de la porte. Je frappe à la porte et là, le chien, lui, il est, enfin, il est à mes pieds, il est tout content de me voir. Et en même temps, en regardant le chien, je me dis, mais ça, c'est un petit chien de mamie. Enfin, j'espère que c'est pas une pauvre petite dame qu'elle a, parce qu'elle va pas savoir, va pas pouvoir m'aider, quoi. Et là, la porte s'ouvre et je me retrouve face à un mec de moins de 2 mètres de haut, avec une barbe de viking et une barbe rousse. Enfin, vraiment le stéréotype du viking, quoi. Et je me rappelle, dans ma tête, il se passe deux choses à ce moment-là. Je me dis, soit je suis dans le remake de Massacre à la tronçonneuse et le mec, tous les 10 ans, il torture et il tue tous les touristes qui restent coincés là. Soit c'est exactement le type d'individu qu'il me faut pour me sortir de là, quoi. Bon, bah, là, coup de chance, c'était la deuxième option. Et en fait, donc, c'était un type voilà, qui vit complètement isolé ici, qui travaille dans des rescue teams, là, donc des équipes de secours. Donc, je ne pouvais pas tomber mieux. Et pour la petite anecdote, c'était donc pendant l'été, pendant la Coupe européenne là, de football. Il venait de regarder le match Islande-Angleterre que l'Islande venait de gagner. Et comble du hasard, juste après, l'Islande devait rencontrer la France. Donc bon, à ce moment-là, t'es fair play. Hein, et tu lui dis, j'espère que c'est l'Islande qui va gagner. Et donc voilà, et en fait, je lui expliquais la situation. Avec sa je suis monté dans sa voiture, qui était un gros 4x4. Et puis, on a rejoint mon ami, qui était toujours dans la voiture. Et il a réussi à nous tracter avec une corde et à nous escorter jusqu'à la route goudronnée après, quoi. Donc,
Est-ce qu'il avait fêté la victoire de l'Islande ou pas encore ?
Non, pas encore. C'était juste après le match. Une chance, je ne l'ai pas interrompu pendant le match. Quoi,
ça aurait été emmerdant qu'il soit bourré et pas en état de conduire.
Ouais, ça aurait été embêtant, ouais.
Bon, ça aurait rajouté un petit peu de sel, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ok, d'accord. Bon, bah, ça va. Tu t'es cru dans Grand Theft Auto à voler des voitures comme ça, toi ?
Non, mais là, c'était le 4 force majeure. Je ne suis pas habitué à voler les voitures, normalement.
merci pour ce récit. Antonin, vas-y, c'est à toi.
Ok, donc moi, c'est une histoire... moi, c'est un voyage un petit peu différent de vous deux parce que c'était pas trop l'aventure. Enfin, ça devait pas l'être parce que c'est mon oncle qui a un très gros bateau et qui m'a invité, moi et mes cousins, sur son bateau qui se situait à Cuba. C'était pas vraiment l'ambiance backpack. Et donc on fait plein de trucs et puis un matin on descend à Cienfuegos et puis on va on fait un petit chemin de randonnée le long d'une rivière pour aller jusqu'à une cénote avec une cascade. Et donc là on se baigne, moi je monte un petit peu, je saute de la cascade, là, là, voilà. On rentre sur le bateau, on mange, on voit une petite barrière de corail, là on fait un peu de snorkeling. Et puis le soir, on était allé sur une espèce de petit îlot désert où il y avait, mais c'est vraiment comme dans les magazines, il y avait un palmier et puis un petit îlot de sable. Et puis on va avec l'annexe et une glacière et puis on boit l'apéritif sur l'îlot. Et donc moi, je commence un peu trop à picoler, un petit peu trop de rosé avec mon cousin Seb. Et après, on remonte, on mange et puis on reste tous les deux un petit peu tard à boire du rosé, et puis à discuter. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on était contents de se retrouver. Puis le lendemain, je me réveille, je me sens pas très très bien, je me suis dit que j'ai peut-être un petit peu trop abusé hier, j'ai dû abuser du rosé, puis du soleil et tout, moi j'aime pas trop m'exposer d'habitude. Et puis je mange mes petits œufs brouillés, puis je retourne me coucher. Et puis ça va pas mieux, quoi. C'est-à-dire que d'heure en heure, je sens mon état se dégrader. Très rapidement, je me mets à avoir de la fièvre, à avoir beaucoup de fièvre. Et puis, je délire, j'ai la diarrhée, je vomis. Donc, je suis mal, vraiment très mal. La clim tombe en panne. Donc, je me retrouve avec 42 fièvres dans 40 degrés. Et puis moi, j'entends tous mes cousins profiter, manger, parce que le bateau a beau être grand, avoir plusieurs cabines, etc. On s'entend, quoi. Et donc, voilà. Et donc, une première journée passe comme ça, et puis une première nuit. Je sentais le perdre complètement le contrôle du temps et de mes pensées, quoi. Je délirais, je dormais des heures, j'avais l'impression d'avoir dormi 10 minutes, je savais plus si c'était le jour, si c'était la nuit. Et puis j'étais avec ma compagne et puis à un moment elle vient me voir et puis elle me dit ça va et tout, tu veux qu'on descende, parce qu'en fait ils débattaient de savoir si on continuait à suivre le périple qui était prévu, qui s'organisait un peu de jour en jour, ou si on retournait à Cienfuegos à terre, parce que j'étais malade. Et donc je les entendais, moi, débattre de ce qu'il fallait faire, et j'étais comme ça en PLS dans le lit. Puis à un moment j'ai vraiment cru que je me dis mais c'est pas possible, je vais avoir un vrai, enfin je vais y rester, quoi. Je me suis dit, pourtant c'est absurde, hein, je suis sur un gros bateau et tout, mais J'étais à Cuba, mal, avec mes 40 de fièvre, je voyais pas d'issue, mon état s'améliorait pas. Et donc, maman, on décide, enfin, il est décidé, parce que moi je participe pas trop aux conversations, on retourne à San Fuegos pour aller dans un dispensaire. Donc là, le capitaine du bateau me fait une piqûre de je sais pas quoi, un truc pour les ministres, là, qui les rebooste, là. Et donc, on débarque. Il y a un taxi qui nous attend. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Cuba, mais les voitures cubaines, c'est des vieilles américaines dans lesquelles on a remis des moteurs chinois qui sont bricolés dans tous les sens. Tu te demandes comment le machin il roule. À l'aller, on est descendu de la Havane pour aller rejoindre le bateau. Nous, on était dans une voiture où il y avait tellement de jeux dans la direction que le mec, pour tourner, il devait anticiper de tourner. C'est-à-dire qu'il tournait le volant, la voiture allait droite et hop, ensuite elle tournait. Voilà, toutes les voitures sont pas comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Et donc on commence par aller au dispensaire, et puis là d'un coup la voiture s'arrête. Et donc je dis, qu'est-ce qui se passe là? La voiture s'arrête. Alors moi il m'avait fait une piqûre, donc je commençais à aller mieux, puis j'étais plus sur le bateau, il y avait un peu d'air frais de la voiture, donc je commençais à reprendre un petit peu mes esprits. Et puis, alors je parle pas un mot d'espagnol, ma copine un petit peu a été avec moi, et puis le mec lui dit pas de problème, pas de problème, pas de problème. Il se met en face et il commence à arrêter toutes les voitures comme ça. Il arrête les voitures, il leur parle, puis les voitures repartent. Et nous, on ne comprenait pas ce qu'il faisait. À un moment, il y en a une qui reste un petit peu plus longtemps. Il revient à la voiture en courant, tout content, en disant pas de problème, pas de problème, pas de problème. Il ouvre son coffre, puis il reprend une petite bouteille d'évian avec un tuyau. Et puis en fait, il s'est mis à siphonner la voiture du gars parce qu'il n'avait plus d'essence. Donc on se dit, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc il retourne dans la voiture, évidemment, il pue d'essence. Moi, les nausées remontent et tout, je me ressens remal. On arrive au dispensaire. Et là, pareil, au dispensaire, je commence à le temps de descendre de la voiture et tout. Puis avec les fenêtres ouvertes, je commençais à aller un petit peu mieux. Et puis on est reçu par une infirmière, grosse maman là, comme ça. Et puis moi, elle me voit arriver avec ma gueule de touriste là, tout blanc rouge. Puis direct, elle me dit, alors j'essaie de lui expliquer que j'ai eu 42 fièvres, etc. Et tout. Puis elle me fait, ah, c'est bon, toi t'es une insolation, toi t'es un petit touriste, t'as trop pris le soleil, t'as trop picolé, c'est bon, j'en vois tout le temps. Puis on s'assoit, puis il y a le médecin qui nous reçoit. Donc on commence à essayer de lui expliquer mon état, etc. Il me fait des petits examens, il voit rien de spécial. Et en fait, en, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, mon état se redégrade en fait, parce que la piqûre que le capitaine m'a fait ne fait plus effet. Et donc du coup, il appelle l'infirmière, tout de suite voit que j'ai re 40 et de fièvre et des brouettes. Alors attends, entre-temps, ils veulent me faire un examen de sel. Donc je me retrouve à essayer de faire caca dans un tout petit gobelet en plastique qu'il stocke sur un frigo. Sous un néon dans la cour intérieure du dispensaire. Donc on peut dire qu'autant s'il y avait des bactéries, s'il y avait quelque chose à trouver, au moins elles pouvaient se développer. C'était tranquille. Et donc voilà, et donc mon état se dégrade, j'ai re-42 fièvre. Un médecin, elle arrive, elle me prend pas la température, elle met la main sur le front, elle fait « Ouh là 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 !» Elle va voir le médecin. Le médecin, il revient, c'est le médecin qui me prend la température. Et là, il dit « D'accord, et donc il faut m'administrer un médicament. » Et puis ma copine est hypochondriaque, elle fait toujours très très attention à ce qu'elle prend comme médicament, à ce que lui prescrivent les médecins, et puis elle fait attention pour moi aussi, forcément. Mais là, elle a vu une aiguille, je sais pas, qui devait... Moi je l'ai pas vue, mais elle m'a décrit, mais je sais pas, l'aiguille elle devait faire 10 ou 20 cm de long, quoi, un truc énorme. Et donc elle s'en va, elle retourne dans l'entrée où en fait il y avait une télévision avec le The Voice cubain, et t'avais des gens du quartier qui venaient pour discuter, regarder le truc. Et là, l'infirmière, donc je la sens qui me pique. Et c'est là que quand je sens en fait le produit rentrer dans mon corps, que j'ai hurlé, mais j'ai hurlé à la mort. Tout le dispensaire m'a entendu. Et j'ai jamais eu aussi mal de ma vie avec un médicament, quoi. C'est idiot. Et en fait, ma copine, elle m'a avoué après qu'elle a regardé quand même ce qu'il m'avait injecté. Et elle a trouvé sur Internet qu'en fait, c'est un truc qu'on ne donne plus en France parce que c'est trop épais, c'est trop douloureux. C'est un antibiotique qu'on donne pour les animaux. En fait, on m'a fini en remède de cheval, quoi. Et donc voilà. Et donc je suis resté un petit peu au dispensaire comme ça. Et après je suis retourné sur le bateau. Et puis mon état s'est un petit peu amélioré. Là, je sais pas, en 12 ou 24 heures. Mais je me suis retrouvé un petit peu à la moitié de mon séjour amputé à cause de ça.
J'aime bien la capacité d'improvisation des Cubains en mode mon Dieu, j'ai plus d'essence. Bon, c'est pas grave. Il suffit d'arrêter quelqu'un et de siphonner.
Ouais, bah oui, tout marche un peu comme ça. Je crois que c'est la ressource avec laquelle ils ont le plus de mal, c'est l'essence, ouais.
Tu m'avais pas dit qu'ils ont un système de santé à Cuba qui est très développé ?
Ils ont un super système de santé à tel point que en fait, quand tu voyages à Cuba, tu es obligé de prendre une assurance santé. Et parce qu'en fait, ils ont beaucoup de tourisme médical. Il y a des gens qui viennent à Cuba parce qu'ils ont un petit problème de santé et ils se font soigner sur place. Et nous, on était dans un... Donc, je suis allé dans un dispensaire qui était en fait un dispensaire pour touristes. Parce que tu n'as pas accès à l'hôpital des Cubains. Et donc, moi, mes selles, là, et, enfin, ce qu'il en restait, il y a quelqu'un qui est venu de l'hôpital dans lequel ils font l'analyse, qui est venu à pied, qui les a pris et qui les a emmenés là-bas pour les analyser, quoi.
Ok. Au final, c'était une insolation ?
Non. Alors, au final, non. Au final, j'ai pris un petit virus dans la, une petite bactérie dans la, quand je me suis baigné en fait. Et je pense que par-dessus, il y a eu l'insolation et la gueule de bois et ça m'a un peu achevé, quoi.
Que du bonheur, quoi.
Voilà, c'était super.
Bon, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais un petit peu parler dans cet épisode. Je vais raconter une histoire qui nous est arrivée au Maroc en décembre dernier. On est parti une petite vingtaine de jours avec ma copine. On est parti de Marrakech et on a été jusqu'à Merzouga, qui est un petit peu une ville aux portes du désert. Un désert qui s'appelle l'Erg Chebbi. C'était la première fois que j'allais au Maroc et, de manière générale, quand je vais dans un pays que je ne connais pas, j'ai tendance à être un peu un contrôle freak, c'est-à-dire que j'anticipe un peu tout. Je regarde les itinéraires, je regarde où on peut dormir et ça me permet de budgétiser. Donc je suis un pro de l'anticipation et l'improvisation, j'aime pas trop. Je regarde sur internet, je me renseigne ce qu'on peut faire à Merzouga. Bien entendu, c'est à base de randonnée dans le désert avec des dromadaires, nuit au bivouac sous la belle étoile en plein désert. Bon, je me dis que c'est pas mal. C'est un peu touristique, mais bon, en même temps, c'est pas comme si tu pouvais louer ton dromadaire pour aller en solitaire dans les dunes. Je pense que c'est, de un, c'est pas très safe, et de deux... Bon, je pense que c'est juste pas possible. Donc je me renseigne sur des blogs et je vois une blogueuse qui parle d'un tour qu'elle a fait, trois jours de nuit dans le désert, qui décrit ça de manière idyllique, hein, ça fait rêver, c'est-à-dire que le premier soir, c'est après 2 heures de dromadaire, t'arrives en plein milieu du désert et t'as un grand feu où tu peux discuter avec les guides qui te racontent un petit peu la culture berbère, leur tradition, tu joues des instruments, bon, tu kiffes un peu. Le lendemain, réveil, dromadaire encore, tu vas à quelques kilomètres à la frontière avec l'Algérie, et là-bas, tu es accueilli dans une famille nomade de berbères, pareil, qui t'accueille, tu cuisines avec eux, tu discutes avec eux. La manière dont elle le décrit, c'est à base de sourires, d'échanges, enfin, ça donne très envie. Je contacte donc... Le guide par lequel elle était passée, et on décide de faire plus ou moins le même truc. Alors déjà, première déconvenue, enfin première chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est-à-dire que quand tu prends les dromadaires, les bestiaux, ils sont pas en très bonne santé. Enfin, tu vois que ils tirent un peu la gueule, ils bavent, les mecs sont pas forcément très tendres avec eux, et on n'avait pas du tout... En fait, on avait envisagé la balade en dromadaire comme quelque chose de très beau, d'un peu exotique, où tu vas être dans les dunes, ça va être génial. Mais on ne l'avait pas du tout anticipé sous l'angle un petit peu de la maltraitance animale. Donc déjà, premier retour à la réalité, on se dit « ouais, c'est pas très cool ». On se sent un peu mal, mais bon, écoute, voilà. Plein de gens font ça, donc tu vas pas taper un scandale. Il y a des gens qui t'attendent parce que tu es un groupe de 6-7 personnes. Tu montes sur le dromadaire. La première soirée se passe très bien, sauf qu'on crève de froid, parce que le désert, c'est très froid. D'autant plus qu'on était en décembre, donc je pense que le désert est encore plus froid. Et bon, le lendemain, on se lève, on arrive à dormir tant bien que mal avec ma copine, on se lève et là, au lieu d'aller directement à l'autre campement de nomades, ils nous ramènent au camp de base, qui est aux portes du désert et tout, et il devait être 8h du mat. Et là, on se met à attendre au camp de base, où chaque heure, ils nous disent « Ah, on va venir vous chercher pour vous amener à l'autre camp, à la famille de Berbère. » Et chaque heure, ils venaient nous voir « Ah, c'est dans 1 heure, ah, c'est dans 2 heures, désolé, et tout. » On arrivait à 8h du match, je crois, ou 9h, et aux alentours de 15h, 16h, je commence à dire, c'est la vue est magnifique, hein, t'as vu sur les dunes, on a pu prendre une douche, ce qui est quand même très, très chouette. Moi, j'avais de quoi bouquiner ma copine aussi, mais bon, c'est pas ce pourquoi on s'était mis d'accord avec le guide, quoi. Donc je vais le voir au bout d'un moment, et je lui dis, écoute, c'est pas très cool, parce que c'est pas... ça correspond pas à ce pourquoi on s'était mis d'accord. Il dit « Ah bon, d'accord, écoute, et tout. On va vous amener à la famille. » Et en fait, on était juste avec ma copine. Et ils disent « Tu vas y aller en 4x4 ou tu vas y aller en chameau ?» Je dis « On va éviter de polluer. Enfin, on va y aller en chameau quand même, même si t'es sur les bestiaux, on va éviter de prendre un 4x4. » Ok, on monte sur les chameaux. Et là, ce que je savais pas du tout, parce que je sais pas vous, mais j'ai pas l'habitude de me déplacer en dromadaire, c'est que ça fait super mal au cul. Mais genre, tu te retrouves avec des espèces de crampes ou de courbatures, et vas-y que tu repars pour une heure tendre le dromadaire, et ça te fait mal, quoi. Et bref, on commence à quitter les dunes. Petit à petit, il y a de moins en moins de sable et tout. Et c'est marrant parce que bon, bah, tu t'émerveilles, parce que les dunes de 1, c'est magnifique, avec la couleur du soleil, selon l'heure, ça change. Et puis tu regardes par terre, tu vois qu'il y a énormément de vie, au fait, dans ces dunes. Tu vois des traces d'animaux, je sais pas, des serpents, des pattes de mammifères, des traces d'oiseaux. Et tu te dis que c'est un petit peu comme la neige, au fait, ça marque, ça a une mémoire, et bon, c'est beau, tu t'attardes sur ça. Puis on quitte les dunes, et on commence à arriver dans un désert de roches, quoi. Il faut savoir que beaucoup de déserts sont des déserts de roches, au fait. Quand tu t'imagines le désert, tu t'imagines le Sahara, les dunes, mais en fait, énormément de déserts sont des déserts rocailleux, sans vraiment beaucoup de sable. Et on se retrouve dans un décor comme ça, c'est-à-dire qu'à perte de vue, t'as des cailloux, mais des tout petits cailloux, et au fond, genre à peut-être 20-30 kilomètres, t'as des immenses montagnes, et c'est les montagnes qui séparent le Maroc de l'Algérie. Et on commence à se dire, enfin, tu vois rien aux alentours, vraiment rien, sauf une espèce de petite cahute en béton qui se rapproche et tout. Il nous avait mis avec un chamelier qui était très jeune, il devait avoir 15-16 ans, il parlait très très peu anglais et pas du tout français. Et on arrive au niveau de cette cahute et il nous dit « Bon, ben c'est bon, on est arrivé. » Je dis « Ah, d'accord, ok. » Et au large de la cahute, enfin à une, je sais pas, trentaine de mètres, il y avait une espèce de tente battue aux quatre vents avec deux tapis par terre. On s'assoit là. Et là, on commence à attendre. On ne sait pas trop ce qui se passe. On voyait la famille qui s'affairait. En posant des questions, on se rend compte que c'est la famille qui va nous accueillir pour la nuit. Mais personne ne vient nous dire bonjour ou ils font semblant de nous ignorer. Enfin, on est un peu mal à l'aise parce qu'on a l'impression d'arriver chez les gens et bah, ils viennent pas t'accueillir. C'est un peu bizarre. Et bon, de longues minutes, de longues dizaines de minutes passent. Puis à un moment, une des filles vient nous voir, nous apporte du thé. Et au fait, là, le chamelier nous dit « Bon, bah, c'est là que vous allez dormir. » Et « Ah, ok, il est 5 heures de l'après-midi. Il n'y a rien. » Il n'y a rien, mais genre, il n'y a rien à faire, quoi. Il commence à faire froid, on est en décembre, et il nous dit, c'est là que vous allez dormir. Et là, on regarde la tente, on regarde ce qu'il y a, et on se dit, mais on va crever, au fait. On va crever de froid, c'est-à-dire que, déjà qu'on avait crevé de froid avec je ne sais pas combien de couvertures, on avait dormi en pull, on avait dormi en écharpe, en bonnet, parce qu'il fait vraiment, vraiment froid, il devait faire zéro ou moins de zéro. Là, on regarde le truc, la tente battue aux quatre vents, une vieille couette de survie, on se dit putain, on va crever, c'est pas possible. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, la famille continue de nous ignorer, personne nous parle et tout. Donc bon, on parle avec ma copine qui a la chance d'être assez bavarde, donc on se dit pas mal de choses, y a pas de soucis, mais ouais, au bout d'un moment, on commence un peu à se faire chier. Et la nuit commence à tomber, et là, le chamelier nous dit on va rentrer dans la maison. Ah d'accord, parce que c'est là qu'on dort. On rentre dans la maison, donc quatre murs en béton, ils nous foutent dans une pièce. Et là, pareil, rien ne se passe, aucun échange avec les gens chez qui on est, donc c'est quand même assez gênant, parce que tu sais que tu es chez des gens, ils t'accueillent, mais bon, tu te sens pas accueilli du tout, en fait, t'as l'impression d'être dans une pièce et un peu de les gêner, donc c'est quand même assez malaisant. Et au bout d'un moment, ils nous amènent une assiette de couscous qu'on mange, et on se dit, bon, bah, il est quoi, il est 20h, 21h, on va dormir, il y a que ça à faire, quoi. Et au bout d'un moment, t'as un gamin, alors ils devaient être 5 enfants dans la famille, t'as un tout petit garçon qui doit avoir 3-4 ans, qui vient dans notre pièce avec un petit sac, et il commence à sortir de son sac une petite poupée de chameau. Et je me dis, ah, c'est trop mignon. Il est curieux, il vient nous montrer ses jouets, t'avais l'impression qu'il était tout fier, il les étalait devant nous. Au fait, ma copine dit, mais non, pas du tout, au fait, voilà, ils essaient de te vendre des trucs. Et t'as le gamin de 3 ans qui arrive, puis celle de 5, puis celle de 7, et il commence à déballer plein de trucs devant nous sur des tapis, et au final, c'est encore plus gênant, parce que tu te dis, bon, t'es chez ces gens-là, qui sont quand même relativement modestes, qui t'envoient leurs enfants te vendre des babioles, bon, tu vas quand même jouer le jeu et acheter deux, trois trucs, mais je trouvais ça quand même bien loin de ce que la blogueuse avait vendu en termes de partage de culture, en termes de, tu vas être accueilli chaleureusement et tout, et on s'est fait chier, je me suis reparti avec une espèce de poupée de chiffon de chameau, et le lendemain, on a pris la voiture, on s'est cassé le plus rapidement possible, parce qu'il n'y avait rien à faire, et on s'était senti un peu lésé. Au fait, à partir de maintenant, je me méfierai toujours des billets de blog que tu lis sur Internet, qui te décrivent une destination, parce que, je pense que de 1, ils ont tout intérêt à dire que c'était génial, et de 2, il faut toujours se méfier de ce que tu imagines, de ce que tu fantasmes et de la réalité de la chose. Bon, je suis pas quelqu'un de galérien de manière générale, donc c'est ma galère de voyage auquel j'ai pensé. Mais ouais, on s'est vraiment fait chier, quoi. Voilà pour moi. Vous avez été au Maroc, vous ?
Je suis allé à Marrakech. Mais oui, effectivement, après... Ensuite, je ne sais pas si toi, à ton niveau, tu as retransmis l'information comme quoi que ce guide-là méritait peut-être pas non plus.
Non, j'ai pas forcément. Ouais.
Mais bon.
Peut-être que je devrais pour éviter des déconvenus, j'en sais rien. Mais bon, j'ai préféré oublier cette histoire et me concentrer sur le reste du Maroc qui était fantastique. C'est un pays incroyable que j'ai très envie de visiter à nouveau. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de table. En espérant que ça ne nous porte pas trop la poisse pour nos prochains voyages. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Raphaël. C'est quoi tes prochains projets ?
Je sais même pas si j'ai du travail à partir de lundi, donc je sais pas. Je vais déjà retrouver du travail et après on verra.
Tu m'as dit que tu as fait le chemin de Saint-Jacques, là, il y a pas longtemps.
Oui, je reviens du chemin de Saint-Jacques. Je suis revenue hier soir.
Ok. Ça voilà. T'a apporté la crève et autre chose ou juste
Non, juste la crève. Et sinon... sinon c'était très très beau et c'était bien pour réfléchir, bon pas très animé mais on part pas trop pour ça, et pour le coup bon, c'est la France donc j'ai pas trop eu de galère, ça va, bon je suis juste tombée malade en dormant chez les nonnes mais c'est tout.
Ça marche, merci beaucoup Jonathan.
Merci à toi.
Un voyage de prévu dans pas longtemps ?
Oui, je pars en novembre tout au nord de la Norvège pour plonger avec des orques et des baleines.
Pas mal.
Sympa.
Merci beaucoup Antonin.
Bah, moi, je devais aller au Maroc là avec des collègues de travail et un Marocain.
J'ai un super plan pour le désert, si tu veux.
Ça m'intéresse. T'as un contact ?
Ouais, je te le filerai.
Donc voilà, on part en décembre là.
Ok, cool. Bon, bah écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était une formule un petit peu spéciale. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis on verra si on peut faire d'autres formats hors série. Vous pouvez me le dire sur le compte Instagram du podcast, je le rappelle, bourlinguer.podcast. Merci également à Charles pour la prise de son, merci à Julie et à l'ensemble de l'équipe Nouvelles Écoutes puisque cet épisode a été enregistré dans leur studio. Merci beaucoup, au revoir.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. J'ai bourlingué.